BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Tout pour investir et faire bon usage de votre assurance vie. Nous sommes avec Alice Labou. Bonjour Alice.
Bonjour.
Vous êtes présidente de Trecento Asset Management avec nous pour traiter des cas très pratiques, hein, de situations où vous propose une assurance vie, vous voulez y aller, vous avez peur, bref. Mais aussi répondre aux nombreuses questions que vous nous adressez depuis le début de cette émission, car nous avons traité dans la première heure le sujet de la transférabilité du PEA. Nous avons également évoqué la non-transférabilité de l'assurance vie et ça vous inspire moult questions. Alice va répondre à quelques-unes, évidemment, si on le peut, dans le temps imparti, évidemment, dans l'espace de réflexion aussi limité dans lequel nous sommes. D'abord, un cas pratique, si vous voulez bien, Alice. Ça va parler à ceux et celles qui nous écoutent. Mon banquier me pousse à ouvrir un contrat d'assurance vie, mais j'ai peur de bloquer mon argent et de ne pas pouvoir en disposer si j'en ai besoin. Ça vous parle sans doute, cher auditeur. Que fait-on ?
Alors d'abord, votre banquier a raison. C'est-à-dire que c'est une bonne idée d'ouvrir un contrat d'assurance vie et on va volontiers expliquer pourquoi. L'idée, c'est vraiment de se dire que l'argent n'est pas bloqué. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme de légende urbaine autour de la thématique de l'argent est bloqué pendant 8 ans, donc je n'ai pas envie de mettre cet argent de côté. Si jamais j'en ai besoin, je souhaite pouvoir en disposer. La bonne nouvelle, et maintenant, on commence à le savoir, mais c'est important de le dire et de le redire, votre argent n'est absolument pas bloqué. Dès le lancement de votre contrat d'assurance vie, vous pouvez récupérer toute ou partie des sommes investies et même des bénéfices que vous avez potentiellement réalisés. Ce qui va faire la différence, pourquoi est-ce qu'on parle de ces fameux 8 ans dans les contrats d'assurance vie ? C'est juste la fiscalité, c'est-à-dire que vous allez payer plus d'impôts sur la plus-value avant les 8 ans et moins d'impôts sur la plus-value après les 8 ans. Mais la différence n'est pas si énorme que ça, puisque avant les 8 ans, si jamais vous retirez de l'argent, donc tout ou partie de l'argent, c'est seulement la plus-value qui va être imposée. Ça, c'est très important de le dire, ce n'est pas l'argent que vous avez mis initialement qui va être imposé. Heureusement que vous avez déjà payé plein d'impôts pour mettre des sous de côté. Donc je pense que là, on est bon. Donc quand vous générez de l'argent au sein du contrat d'assurance vie, cette fameuse plus-value avant les 8 ans va être imposée soit à ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire à 30%, soit à votre impôt sur le revenu. Donc si vous êtes imposé par exemple à 15% en impôt sur le revenu, vous avez intérêt à choisir d'être fiscalisé en impôt sur le revenu et pas en flat tax à 30%. Après les 8 ans, c'est un peu différent. C'est 24,7% d'impôt sur la plus-value ou à nouveau votre taux d'imposition personnel sur le revenu. Donc à nouveau, si vous payez moins que 24,7% en impôt sur le revenu, vous avez intérêt à opter évidemment pour votre impôt sur le revenu. Donc en fait, ces fameux 8 ans, c'est juste une histoire fiscale, mais ça n'a aucun impact évidemment sur votre obligation de conserver l'argent dans le contrat. Donc ça, c'est fondamental.
Dans le cas qu'on évoque, on n'a pas d'assurance vie, on a du cash à placer, on a peur de bloquer son argent. Donc si on vous a bien écouté, on comprend qu'il n'est pas bloqué, qu'on peut y recourir si on en a besoin. Pourquoi est-ce qu'on arbitrerait a priori en faveur d'une assurance vie plutôt par exemple qu'un PER qui offre un ensemble de conditions favorables de cas de déblocage anticipé?
Oui, alors c'est pas tout à fait la même chose. Si vous voulez, le plan d'épargne retraite a vocation à préparer votre retraite. Donc, a priori, vous devez laisser cet argent pendant un certain temps. Donc oui, il y a des cas de déblocage anticipé, mais ils sont quand même assez minimes au regard de l'assurance vie. Il suffit que vous envoyez un papier de rachat à votre compagnie d'assurance vie et vous récupérez votre argent. Je pense que la combinaison des deux est plutôt intelligente. Alors, le plan d'épargne retraite, il n'y a pas d'avantage successoral. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas évoqué là, mais vous savez qu'un contrat d'assurance vie, pourquoi votre fameux banquier sur la question numéro 1 disait il faut que vous ouvriez un contrat d'assurance vie, tout simplement parce que dans le cadre de la succession, s'il vous arrivait quelque chose, il y a jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire que vous aurez désigné dans votre contrat d'assurance vie en totale franchise de droits de succession. C'est-à-dire vous ne paierez pas d'impôt sur les successions, et Dieu sait que ça peut être assez violent parfois, vous ne paierez pas, en tout cas pour chaque bénéficiaire, jusqu'à 152 500 euros. Alors qu'un plan d'épargne retraite, c'est pas du tout le même système. C'est-à-dire que vous n'avez aucun avantage fiscal en matière de succession. Et puis, c'est pas dit que vous, enfin, selon le type de plan d'épargne retraite, c'est pas dit que vos héritiers récupèrent l'argent que vous avez mis de côté pour votre plan d'épargne retraite. On sait très bien qu'à l'époque du Madelin, c'est-à-dire c'est l'ancêtre du plan d'épargne retraite, il y avait cette problématique. Il y a des gens qui ont mis plein d'argent de côté et qui malheureusement sont décédés peu de temps après la retraite. Et ben, toute la rente Madelin est restée à l'assureur. D'ailleurs, ça leur a fait, enfin voilà, ça a été plutôt des avantages, voilà, non négligeables pour les assureurs, alors que les héritiers n'ont rien touché. Donc c'est pas du tout les mêmes outils. Les deux ont des avantages, mais on peut pas substituer l'un à l'autre.
Voilà, on l'entend parfois, la combinaison est une solution. Autre question très pratico-pratique, et je suis sûre que beaucoup de nos auditeurs, auditrices se la posent ou se la sont posées il y a quelques mois. Mon contrat d'assurance vie ne rapporte rien. Est-ce que je dois changer d'assureur ? Je dirais même, est-ce que je peux changer d'assureur ? On va parler de transférabilité.
Exactement. Alors, la question de la transférabilité, évidemment, est centrale. Malheureusement, aucune décision n'a été prise en ce sens. Il en a été question dans le cadre de la loi Pacte. Mais finalement, la puissance et la détermination des assureurs à mettre en place une non-transférabilité a fonctionné. Puisque non, vous ne pouvez pas transférer votre contrat d'assurance vie. Alors, une fois que vous l'avez ouvert, vous l'avez ouvert. Alors, la bonne nouvelle, c'est quand même que vous pouvez en ouvrir plusieurs.
Oui.
Donc, vous pouvez dire, bah, moi, je ne suis pas content de ce contrat, donc je préférerais ouvrir un autre contrat ailleurs. Et donc, vous ouvrez un second, un troisième, un quatrième. Il n'y a pas de règle en matière de nombre de contrats d'assurance vie. Simplement, ça oblige à disposer du cash, évidemment, pour réouvrir un contrat. Donc, ou alors, retirer de son contrat pour remettre dans l'autre. Mais c'est rarement recommandé. Mais ça peut totalement se faire si on n'est pas content de la relation. Voilà, la seule transférabilité qui a été mise en place, c'est celle des commission, c'est-à-dire que en fait vous pouvez choisir de changer d'intermédiaire et que le nouvel intermédiaire, donc par exemple vous avez un conseiller en gestion de patrimoine, vous avez ouvert avec lui un contrat d'assurance vie. Évidemment, vous savez qu'il touche des commissions sur votre contrat d'assurance vie. Bon, vous n'êtes plus content du service, il ne vous répond plus au téléphone, ça se passe pas très bien, ce qui peut arriver parfois. Vous vous dites, bah vous rencontrez quelqu'un d'autre qui vous plaît bien et avec qui vous avez envie d'avoir une vraie relation de conseil. Et bien là, vous demandez à l'assureur de changer en fait de référent en matière d'intermédiation, et donc les commissions peuvent arriver à ce nouvel interlocuteur. Alors ça peut prendre 6 mois, 12 mois, enfin voilà, ça peut être un peu long, voilà, exactement. Néanmoins, ça c'est possible. Donc sur le premier volet de la transférabilité, ça n'est pas encore le cas. Je pense que c'est bien dommage parce que je crois qu'on a le droit de disposer de son épargne. Je vois pas pour quelle raison, je veux dire, comme je disais tout à l'heure, on a travaillé beaucoup pour mettre des sous de côté, on a payé beaucoup d'impôts sur le chemin, donc je pense que c'est bon. On a le droit de disposer de son propre argent. Néanmoins, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait possible. C'est pour ça qu'il faut bien choisir son assureur et son intermédiaire. Après, au sein du contrat, si on me dit Alice, je trouve que je ne gagne rien, j'en ai marre de gagner 1% par an, j'ai mis plein de sous et puis finalement, je ne gagne rien, ça ne m'intéresse plus l'assurance vie.
1% même, vous perdez.
Voilà. Mmh. Alors, avec l'inflation, bien sûr, vous perdez. Alors, ben, moi, en général, je réponds... qu'est-ce que vous avez choisi de mettre au sein de votre contrat d'assurance vie? Parce que l'assurance vie, c'est comme le PER, c'est juste une enveloppe fiscale, en fait. C'est une enveloppe dans laquelle vous allez pouvoir choisir ce que vous allez mettre à l'intérieur. Et ce que vous allez mettre à l'intérieur, évidemment, ça dépend du risque que vous souhaitez prendre, mais aussi de votre volonté de performance. Si vous voulez... pas prendre de risque, ben vous aurez très peu de rendement. Si vous acceptez de prendre un peu plus de risque, vous aurez plus de rendement. La boîte à outils qui est le contrat d'assurance vie vous permet de faire un nombre d'investissements incroyables. Vous avez le fameux fonds en euros des compagnies qui est la partie sécurisée, c'est bien, mais franchement, pour gagner de l'argent, c'est quand même pas idéal. Après, vous avez une multitude de fonds d'investissement, de véhicules collectifs dans lesquels vous pouvez investir. Évidemment, des fonds actions, j'en parle souvent ici, ça peut être sur des thématiques, sur des zones, donc des régions, des zones géographiques, ça peut être sur des types de taille d'entreprise cotées en bourse. Vous avez aussi des fonds qui sont des fonds obligataire, donc vous allez prêter de l'argent à des entreprises qui vont vous rémunérer avec un taux d'intérêt. Alors tout ça mutualisé dans des fonds, ça peut être intéressant dans certains contextes. Il faut bien penser à la notation, évidemment, des sociétés à qui vous prêtez de l'argent, en tout cas des fonds qui prêtent de l'argent. Vous pouvez aussi investir dans de l'immobilier. Alors c'est moins tendance aujourd'hui, mais il y a eu un énorme succès des SCPI, des SCI. On le sait qu'on collectait des milliards et des milliards. Le goût pour l'immobilier des Français...
Passion de la pierre.
La passion de la pierre s'est exprimée aussi dans les contextes contrat d'assurance vie. Donc, vous pouvez acheter de l'immobilier dit mutualisé à travers ces SCPI SCI. Et là, ça vous offre aussi un rendement qui parfois peut être intéressant. Vous pouvez acheter aussi des produits structurés. On en avait parlé ensemble. Hein. Les produits structurés qui vont, sur mesure, potentiellement, vous apporter du rendement et des garanties en capital ou des protections en capital. Donc, si vous dites, moi, j'ai envie de faire 4,5% par an, ça me va très bien. Je veux que mon capital soit le plus protégé possible. Et je vais demander à mon interlocuteur de me créer ou de trouver un produit qui va être structuré par une banque et qui va m'offrir cette opportunité. Et donc, je ne veux pas le risque action classique ou le risque obligataire classique. Donc, comme vous le voyez, en fait, il y a vraiment la possibilité de faire une forme de mélange, si vous voulez.
Un n'est qu'une enveloppe fiscale. Il faut le rappeler.
Il faut vraiment garder en tête, c'est une enveloppe fiscale et à l'intérieur, vous y mettez ce que vous voulez. Donc, pour celui qui aujourd'hui se dit « Oh, ma banque m'a vendu un contrat d'assurance vie et je gagne rien », je recommande d'appeler son banquier et de dire « Pourriez-vous me donner la liste des supports qui sont éligibles à mon contrat d'assurance vie ?» Il va vous envoyer une liste avec des codes ISIN qui parfois peuvent paraître compliqués. Donc, soit vous-même, vous faites des recherches et vous regardez l'ensemble des supports et vous vous dites « Tiens, celui-là, il a des bonnes performances, il m'intéresse, j'ai envie de le mettre dans mon portefeuille. » Et puis vous appelez votre banquier en disant écoutez, maintenant je veux prendre la main et voilà ce que je veux que vous mettiez sur mon contrat. Soit finalement c'est un peu compliqué, ça prend beaucoup de temps, vous n'avez pas envie de passer un temps fou à regarder les différents fonds. Vous demandez du conseil, soit à votre banquier, soit à un conseiller en gestion de patrimoine qui en général connaît bien le sujet.
Xavier, un autre Xavier, on a deux Xavier qui nous ont écrit aujourd'hui. Là c'est Xavier P. nous disait dans le prolongement de notre sujet sur l'assurance vie de la première heure qu'il est effectivement possible d'ouvrir une deuxième assurance vie dans un autre établissement pour se libérer de la problématique de transfert. Avoir deux assurances vie, 3, 4, 5, est-ce qu'il y a un chiffre maximum quel est l'incentive, quelle est la motivation d'avoir plus qu'on va dire deux assurances vie?
C'est justement ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est d'avoir deux pourvoyeur, on va dire, de produits financiers. Donc, parce que parfois, souvent d'ailleurs, les banques, quand elles vous font ouvrir un contrat d'assurance vie, vous pouvez quasiment investir que sur les fonds de la banque.
Ouais.
Donc, c'est un petit peu limité. Vous voyez, si vous avez envie d'aller chercher des grandes maisons de gestion, des savoir-faire étrangers, des choses comme ça. Donc, vous pouvez dire, à côté de ça, j'ouvre un contrat d'assurance vie auprès d'une plateforme qui est beaucoup plus ouverte, qui va me faire ce qu'on appelle de l'architecture ouverte, et je vais aller chercher des fonds qui m'intéressent. Mmh. Moi, je vois, par exemple, les fonds que j'ai sur la santé et sur la robotique, ils sont pas éligibles dans les contrats d'assurance vie des banques, tout simplement parce qu'on est une petite société de gestion entrepreneuriale et donc on compte pas pour eux. Et bien, il y a certains contrats où c'est possible. Donc, l'intérêt, c'est ça. Et après, je n'ai pas en tête de chiffres limitants sur le nombre de contrats d'assurance vie qu'il est possible d'ouvrir.
Bon, à part faire évidemment attention aux frais qu'on paye, parce que autant d'assurance veut dire autant de frais différents.
Oui, alors oui, autant de frais différents, oui, c'est vrai. Après, les frais, le sujet des frais, c'est surtout, en fait, il faut limiter les frais d'entrée parce que c'est ce qui fait qu'à chaque fois que vous mettez des sous, il y a une quote-part qui s'en va.
Un petit péage.
Voilà, un petit péage. Et donc, du coup, quand vous le faites fructifier, c'est plus embêtant. Après, les frais du contrat sont globalement, c'est-à-dire chaque année, vous payez des frais, c'est à peu près harmonisé en France.
On parlait tout à l'heure d'assurance-vie avec le patron de Nalo, plateforme digitale, qui nous racontait l'histoire d'une de ses prospects, ou en tout cas quelqu'un avec qui il échangeait, qui avait 1,5 million d'euros d'actifs dans une banque où elle était cliente depuis 25 ans et son assurance vie était composée de 37 fonds.
Ah oui.
Et donc, on plaisantait en disant que c'était plus de la diversification à ce moment-là, mais de l'éparpillement. 37 fonds.
Oui, 37 fonds, c'est beaucoup. C'est un choix. Bon, disons que c'est pas ce qui me choque le plus. Ce qui m'aurait le plus choqué, c'est que depuis toujours, elle soit en fonds en euros, par exemple.
Ouais.
Ça m'aurait plus dérangé qu'une énorme diversification. Oui, 37, c'est pas mal, quand même.
Ah oui, et donc, je vous dis pas, voilà. Et les frais de gestion du contrat, c'était à peu près 3,3, je crois.
Ah oui.
Donc, ça faisait presque 50 000 euros de frais annuels.
Ah oui. Bah, c'est ça. Bah, c'est sympa pour le banquier. Ou pour l'assureur. Mais c'est moins sympa pour le client. Il y a un petit point sur la question des 70 ans, quand même, qu'on n'a pas évoqué.
Allez-y, rappelez-nous.
Hein, juste très rapidement, en fait, il faut ouvrir son contrat d'assurance vie avant 70 ans, parce que après vous avez moins d'avantages fiscaux en termes sur la taxation sur la plus-value, et puis même pour la partie successorale, vous avez moins d'avantages sans droit de succession pour vos bénéficiaires. Donc surtout, avant 70 ans, ouvrez un petit contrat, ça coûte pas grand-chose, mais ça vaut le coup de le faire.
On aurait pu débattre de cette proposition de loi Husson Montgolfier, qui date de 2023, qui tentait d'apporter des solutions, en tout cas qui ouvrait la réflexion sur le sujet de la transférabilité des contrats d'assurance vie. On le rappelle, aujourd'hui, on ne peut pas transférer son assurance vie.
Alors,
moi, je reste en bloc dessus depuis 10 heures.
En fait, c'est des politiques que vous devriez inviter pour parler de ça, parce que c'est un sujet politique et ça mérite une grande conversation, même autour du financement de la dette de l'État. C'est-à-dire, posez-vous de la question, qui finance la dette de l'État français ? Qui sont les investisseurs de long terme en France et pourquoi est-ce que ces fameux transferts de contrats d'assurance vie ne sortent pas ? C'est-à-dire, politiquement, il n'y a pas de, c'est pas acté. Donc je pense que tout ça, c'est un intérêt collectif. C'est pas particulièrement une théorie spécifique, mais c'est l'intérêt des assureurs qui est pas de transférabilité et c'est l'intérêt de l'État de chouchouter les assureurs.
Mais vous avez raison, Alice Labou, présidente de Trecento Asset Management. On va inviter des politiques pour en discuter de ce sujet. On parle souvent de Paul Midi qui fait pas mal de choses qui nous impacte directement en tant qu'investisseur, mais c'est vrai, peut-être qu'on pourrait lancer la perche aussi à Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier, si je ne dis pas de bêtises, qui étaient à la tentative de manœuvre de cette réforme de l'assurance, enfin de la transférabilité des contrats. Merci Alice pour ce point très éclairant sur l'assurance vie, sur ces mythes à déconstruire, sur l'argent qui n'est pas littéralement, qui n'est pas tout court bloqué dans l'assurance vie, sur les frais et effectivement la fiscalité. Puis vous avez retenu, il y a 8 ans pour avoir une fiscalité allégée, mais il y a surtout cette deadline des 70 ans pour que ce soit intéressant, cette enveloppe fiscale. Merci beaucoup Alice Labou et l'équipe de Trecento Asset Management.